Bonsoir, bienvenue à vous dans ce groupe de partage, le dernier de l'année. Nous sommes peu nombreux, mais je suis sûr qu'au final, avec tous ceux qui nous écouteront par la suite, nous formons dès à présent un très grand groupe. Voilà, je vais faire sonner cette cloche qui va symboliser notre présence que nous mettons en commun pendant quelques secondes, juste être là, ici et maintenant, sans rien d'autre. Merci. Voilà, donc je vais un tout petit peu introduire la soirée et ensuite nous partagerons. D'ores et déjà, je peux dire que je me sens dans un rendez-vous assez exceptionnel ce soir, sans raison apparente, mais en même temps, il y a beaucoup pour moi de synchronicité qui arrive ce soir. Voilà, donc je vais citer la phrase que j'ai choisie la semaine dernière, le 20, puisque nous sommes le 27 décembre 2010, le dernier lundi de l'année. Et la semaine dernière, j'ai choisi une phrase qui parlait du ciel. Dans le chapitre 31, sous chapitre 7 et le paragraphe 9, il est dit, de un cours en miracle, bien sûr, « Le ciel n'est ni un lieu ni une condition, c'est simplement la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. » Voilà pour cette introduction. Quand je dis que c'est un groupe de partage sur les enseignements non-duels, les enseignements sur l'unité, puisque la non-dualité c'est rien d'autre que l'unité avec un grand U, c'est parfait pour moi comme introduction. C'est parfait parce que le ciel, c'est pas le ciel bien sûr qu'on connaît avec les nuages. C'est pas un lieu, c'est pas une condition, une conscience. C'est important d'appuyer sur ce mot, la conscience d'une parfaite unité. Voilà, ce soir, même si nous sommes peu nombreux, intervenez quand vous voulez, coupez la parole pour poser une question, pour dire quelque chose de votre vie quotidienne. On peut céder aussi des petits livrets qui contiennent des questions, des réponses importantes sur les questions majeures de Un cours en miracle, qui disent qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que le monde, etc. Et puis je vais dédier la soirée à l'esprit qui va la diriger, et puis moi je vais pouvoir bien me détendre, puisque je vais juste parler quand je serai guidé à le faire, ou je ferai ce que je sens de faire, et puis le reste du temps, je laisserai venir ce qui doit venir. Donc, page 30 dans l'introduction du cours, tout près du début, il y a cinq phrases que je cite assez souvent dans ma vie, et qui m'aident à laisser faire les choses, plutôt qu'à essayer de les contrôler, de les manipuler ou de les diriger. Et ces phrases, elles disent ceci, « Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. » Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. » Donc ça parle beaucoup de lâcher prise, ça parle beaucoup de confiance, surtout la troisième phrase, « Je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire, car je vais être dirigé, je vais être guidé. » Dans tout ce que je vais partir de dire ou de faire. Et puis, voilà, pour moi ça me détend beaucoup parce que quand je ne sens pas de répondre à une question, ben, je ne réponds pas. Et puis quand l'inspiration est là, et puis c'est évident, et ben, voilà, je laisse venir ce qui vient. Et quand j'écoute l'enregistrement, je suis assez surpris même de m'écouter moi-même, souvent. Parce que c'est comme si c'était pas moi qui parlais, hein, c'était mon Saint-Esprit, la partie élevée de moi-même, qui s'exprime, qui joue de la musique à travers le rose au creux que je suis, comme disait un poète soufi. Alors, aujourd'hui, comme c'est le dernier lundi de l'année, eh bien, ça fait un moment que j'ai une musique, que j'ai entendu une musique de Francis Cabrel dans l'album Des roses et des orties. D'ailleurs, c'est pas mal, hein, parce qu'on peut bien faire la comparaison avec la terre et le ciel, hein, l'obscurité et l'ombre, des roses et des orties. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que pour moi, elle était extrêmement initiatique. Les paroles sont extraordinairement adaptées aux enseignements non-duels que nous partageons, hein, tous ces lundis-là. Donc, je vous propose d'écouter les deux premières minutes. Hein, bon, ça dure peut-être pas beaucoup plus, si ça dure 5 minutes. Mais déjà, le titre, c'est « Des hommes pareils ». Et après, si vous voulez, on pourra partager dessus, après ou plus tard. Hein. Mais les paroles, voilà, pour moi, vraiment, tout est dans les paroles. Donc, je vais la faire démarrer.
Des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil, même cœur entre les mêmes épaules. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Si on y oublie l'essentiel, on partage le même royaume. Vous êtes et nous sommes. Moi j'ai des îles, j'ai des lacs. Moi j'ai 3 poissons dans un sac. Moi je porte un crucifix. Moi je prie sur un tapis. Moi je règne et je décide. Moi j'ai 4 sous de liquide. Moi je dors sur des bambous. Moi, je suis docteur marabout. Et nous sommes des hommes pareils, plus ou moins loin du soleil. Blanc, noir, rouge, jaune, créole, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? S'il y manque l'essentiel, semblable jusqu'au moindre atome, vous êtes et nous sommes. Moi je me teins et je me farde, moi mes chiens montent la garde. Moi j'ai piégé ma maison, moi je vis sous des cartons. Moi j'ai 100 ans dans 2 jours, moi j'ai jamais fait l'amour. Enfants, neveux et nièces, on dort tous dans la même pièce. Quel que soit le prix qu'on se donne, on nage dans le même aquarium. des hommes pareils.
Voilà, je vais arrêter là. Ceux qui veulent retrouver la chanson, c'est Francis Cabrel dans l'album Des roses et des orties. Tout l'album est très très beau hein, pour moi, mais celle-là, c'est incroyable ce qu'elle a pu résonner pour moi. Alors, on nage tous dans le même aquarium, on est des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil, plus ou moins loin du soleil, hein, j'entends aussi plus ou moins loin de notre lumière, hein, de notre splendeur, hein, peut-être. Et on est tous pareils, ça veut, et pour moi, Francis Cabrel, à travers ça, me parle de la fraternité. Que je sois, que je prie sur un tapis ou que je porte un crucifix, je suis un homme pareil. Le fond de mon être, c'est le même. C'est le même que le tien, que celui de tout, tous mes semblables. Voilà, que je sois jeune, vieux, riche, pauvre, ou même que je sois dans le pouvoir et dans la manipulation, eh ben je suis pareil, hein, je nage dans le même aquarium. Voilà, à un moment donné, j'écoutais cette chanson sans arrêt, puis après j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux paroles, et là c'était une vraie révélation pour moi. Donc je sentais bien de vous faire partager ça, et j'en suis ravi. Hein. Voilà. Alors, pour continuer l'introduction, je vais citer encore un petit peu de choses à propos de cet ouvrage bleu de 1300 pages. Et à quoi il sert, hein? Quelle est sa portée? Quel est son but? D'abord, c'est un ouvrage qui a été reçu à la fin des années 60 par une psychologue à New York qui était athée, qui ne croyait pas du tout à la spiritualité, mais qui était en perpétuelle rivalité avec son collègue. Et un jour, ils disaient tous les deux, il doit bien y avoir une autre voie que ces conflits perpétuels pour le pouvoir, hein, pour avoir raison. Et puis, à partir de ce moment-là, elle a commencé à entendre, ceci est un courant miracle, s'il te plaît, prends note, dans sa tête, hein, une voix qui répétait inlassablement ça, jusqu'à ce qu'elle décide, avec l'aide de Bill, d'écouter ça, et ça a donné un ouvrage qu'elle a pris sous la dictée de Yeshua, Jésus, l'énergie de Jésus, pendant 7 ans, et qui a été traduit dans beaucoup de langues. Donc c'est un livre qui est composé d'une préface, d'un texte de 700 pages qui contient la théorie, d'un livre d'exercices pour étudiants où il y a 365 leçons, une pour chaque jour de l'année, et puis d'un manuel pour enseignants et d'une partie de clarification des termes. Voilà, et il y a dans l'introduction quelques phrases qui sont assez parlantes pour moi, qui résument assez bien la portée de cet ouvrage. Et elles disent « Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton héritage naturel. L'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Ce cours peut donc se résumer très simplement de cette façon. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. » Voilà, j'ai longtemps moi-même buté sur ce paradoxe qui dit l'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. A priori, cette phrase n'est pas logique. Hein. Mais en même temps, elle ne s'adresse pas à un seul monde. Hein. Dans le monde de l'ego, en effet, il y a des opposés, et la peur semble être l'opposé de l'amour qui est avec une condition. Merci. Dans le monde de l'unité, Alors, ce qui embrasse tout, bien sûr, n'a pas d'opposé, puisque c'est un monde sans opposé. C'est le bien sans opposé, pas en opposition au mal. Donc, en effet, dans cette introduction, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites. On parle du monde de la séparation, dans l'amour, l'opposé de l'amour et la peur, et on parle du monde de l'unité dans lequel l'amour embrasse tout. Et j'aime bien citer aussi deux mots qui sont repris dans le livre de Gary Renard « Et l'univers disparaîtra ». Donc c'est un Américain qui a reçu la visite de deux maîtres ascensionnés qui se sont matérialisés dans son salon, sur son canapé, un beau jour, et qui ont commencé à lui enseigner des choses et aussi à lui faire comprendre que sa mission dans le monde, c'était de diffuser la connaissance de ce livre, Un cours en miracle. Mais à part ça, il y a eu beaucoup de beaux enseignements qui lui ont été donnés. Donc c'est un homme qui parcourt le monde alors qu'il était très timide, qui n'osait pas du tout prendre la parole en public. Maintenant, il a une grande aisance. Il a beaucoup aussi, il s'agit beaucoup du pardon dans ce livre, L'univers disparaîtra. Et dans ce Gary Renard qui était là en 2008 et en 2009, disait avant, quand j'étais en colère, ça pouvait me prendre 30 ans à pardonner. Et aujourd'hui, 30 secondes. Donc c'est impressionnant le chemin qu'il a pu faire grâce à ces deux maîtres. Donc ces deux maîtres lui ont dit une chose en particulier. En forme de devinette, ils ont dit « Nous t'annonçons que toute vérité tient en deux mots, mais nous ne te dirons pas tout de suite quels sont ces deux mots. » Et ces deux mots sont « Dieu est ». Merci. Dieu est censé contenir toute vérité. Ces deux mots qui décrivent l'unité de Dieu, dans laquelle il n'y a pas Dieu et autre chose, puisque si c'était le cas, alors ce ne serait pas l'unité, ce serait la séparation entre Dieu et autre chose. Donc Dieu est, ça peut être comme un mantra, qui dit, voilà qui nous sommes en vérité. Nous sommes dans l'unité, dans cette unité-là, qui est résumée par Dieu est, mais qui peut aussi être résumée par l'amour et tout ce qui est, puisque l'énergie d'amour, c'est aussi ce que j'ai entendu dire comme étant la plus haute fréquence possible dans l'univers. L'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Celui qui embrasse tout, pas l'amour. Je t'aime si tu es sage, je t'aime si tu restes à la maison, je t'aime si tu fais ce que je dis, si tu ne me contredis pas, je t'aime avec plein de conditions. Cet amour-là, il a bien sûr un opposé. Et cet opposé, c'est de l'amour sur terre, c'est souvent la peur ou la haine. Voilà, dans un monde de dualité. Mais quand je dis l'amour est tout ce qui est, bien sûr, il n'y a rien en face pour dire ce que l'amour n'est pas. Et donc, c'est intéressant parce que, comme l'amour est tout ce qui est, ou Dieu est tout ce qui est, bien, l'amour ne peut s'opposer en effet à rien. C'est pour ça qu'il est dit, l'amour embrasse tout. Embrasser, c'est accueillir. Embrasser, c'est ouvrir les bras pour accueillir quelle que soit la situation. Et la phrase qui appuie ça, c'est Dieu ne connaît qu'un seul mot, d'accord. Quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi que je décide d'expérimenter, d'accord, vas-y. Il n'y a rien auquel Dieu pourrait s'opposer. Il n'y a rien auquel l'amour pourrait s'opposer. C'est puissant, ces deux mots, j'ai mis longtemps à trouver leur puissance. Mais quand je l'ai trouvé, ça peut être des vrais guides lorsque je ne sais pas quoi décider dans une situation. Puisque c'est des mots qui sont toujours vrais, même, et peut-être même surtout, quand je n'ai pas conscience de ça. Parce qu'il n'est pas demandé de les comprendre intellectuellement, c'est le... Voilà. Alors, c'est en quelques mots, je pourrais dire et dire et dire, mais je vais m'arrêter. Hein, je vais m'arrêter, peut-être tout à l'heure je serai guidé à reprendre quelque chose. S'il y a des situations personnelles, elles sont les bienvenues, puisque la plupart des gens qui écoutent une situation personnelle peuvent facilement comprendre de quoi il s'agit. Hein, c'est vraiment une bonne base pour l'éclairer à la lumière de l'unité. Hein, qu'est-ce que un maître, qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation qui, moi, me pose conflit, qui, pour moi, est douloureuse, pour laquelle, moi, j'ai pas de solution, pour laquelle, moi, je tourne en rond depuis 20 ans, pour laquelle... Je fais tout le temps des erreurs et ça ne me rend pas heureux, etc. ou heureuse. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir, si c'est là, soumettre une situation. Ce soir, comme on n'est pas nombreux, il pourra aussi y avoir des temps de silence dans lesquels, eh bien, l'invitation, ce sera de ressentir cette fraternité d'amour qui est là même lorsque je n'en ai pas conscience.
Tiens, oui, Dieu est, c'est très puissant comme formule, dans le sens où, même quand on se le répète, le mental ne peut pas broder là-dessus. Donc, j'ai essayé, c'est impossible. Et en fait, on se relie, simplement en prononçant cette phrase, on se relie à la source, à l'intelligence universelle.
Je ne comprends pas bien cette phrase, quand Dieu est. Alors, moi, ce que je me dis, ça veut dire quoi? Que tout est sacré. C'est ça qu'il faut comprendre dans Dieu est. Je sais pas, c'est une question que je pose.
En effet, c'est pas une phrase, même si elle est super courte. C'est pas une phrase assez évidente pour la plupart des personnes. Pour moi, le sens de ça, c'est Dieu est tout ce qui est. Mais c'est aussi Dieu est maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu a été, Dieu est et Dieu sera. Il n'y a que Dieu est. Et Dieu est. Ça comprend toute l'existence. Il n'y a qu'une seule existence, c'est Dieu. Et nous sommes des vagues, des rayons de soleil issus du soleil, mais un rayon tout seul, ça ne veut rien dire. Une vague hors de l'océan, ça ne veut rien dire. Donc, cette fraternité-là que nous semblons vivre séparément, elle est dans Dieu est. Elle est. Nous sommes la multiplicité du tout, hein, de un seul tout, d'une unité. Bien sûr, pour le mental, c'est très compliqué. C'est à la fois un et plusieurs. C'est pas le premier ni le dernier des paradoxes. Jésus, il y a 2000 ans, répétait tout le temps, moi et mon Père sommes un. Et si je suis un, eh bien je suis Dieu. Donc Dieu est, et je suis Dieu, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Tu es Dieu, il est Dieu, et moi et mon Père sommes un. Il n'y a que Dieu. Ça peut être ça le sens. Dieu est tout. Dieu est tout. Bien sûr, c'est des enseignements non duels, ça veut dire qu'il n'y a pas ceci et cela. Il n'y a que Dieu. Il y a Dieu et rien d'autre. Non duel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposé à Dieu, il n'y a pas d'opposé à l'amour. Dieu englobe toute la conscience. Comme disait cette phrase, le ciel n'est pas un lieu ni une condition. C'est la conscience. C'est la conscience de l'amour. Hein? Enfin, je ne sais pas les termes exacts, mais être dedans, c'est vraiment la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. Donc c'est vraiment ça. Alors c'est pas le ciel, c'est pas un état où je devrais aller, hypothétique, où je devrais me rendre, c'est pas le chemin non plus pour y aller. C'est la conscience que je suis un avec Dieu. Et ça peut venir à la prochaine seconde, hein, ou ça peut venir dans 50 ans. Mais c'est pas un lieu, c'est pas la terre et le ciel, hein, par exemple. Voilà, c'est ce que je peux en dire intuitivement, si ça aide.
Il n'y a pas de notion de temps, justement, dans Dieu est, c'est ni passé ni l'avenir, il n'y a pas de temps. Oui. Et je rajouterais, le mental ne peut pas se représenter ce qu'est cette phrase. Oui.
Moi,
simplement, il y a l'énergie universelle, c'est tout. C'est ce que disait un maître tibétain dans N'est pas bouddhiste qui veut, le nirvana est au-delà des concepts. Donc, le mental ne peut pas se représenter ce que c'est. C'est trop riche. Donc, moi j'y arrive pas, je laisse tomber, le mental décroche et je me retrouve présent à moi-même. Elle est vraiment très puissante cette phrase, cette formule, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça.
Peut-être que ça répond à un peu à ce aussi. Il est impossible de voir deux mondes, la phrase que j'ai tirée de ton petit panier. Moi, cette dualité aussi, je l'ai quand même beaucoup sentie en moi très longtemps, je la sens encore beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est un grand écart que de plus en plus je ne vais plus pouvoir faire. Quoi. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est un écart, comme un écartèlement. Quoi. Mmh. Je ne sais pas si c'est compréhensible.
Si.
Et c'est un peu ça ce que la phrase me dit, il est impossible de voir deux mondes. Choisis ton monde. Juste comme ça.
Oui. Moi je voulais justement parler de cette phrase que tu as tirée. Nous avons choisi d'expérimenter. La limite. Hein. Comme nous sommes des êtres illimités, à un moment nous avons eu ce que le cours appelle une idée folle, et si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont. Donc pourquoi elle est folle cette idée? Parce qu'en effet, les choses ne peuvent être que ce qu'elles sont. C'est comme on dit Dieu est, on ne dit pas Dieu n'est pas. Hein, ça n'a pas de sens. Tout ce qui est, est. Et donc on a essayé de se figurer ce que seraient les choses si nous n'étions pas divins, par exemple, si nous n'étions pas illimités, si nous n'étions pas tout-puissants, hein, puisque en tant qu'être divin, tout est absolument possible pour nous. Il n'y a aucune limite. Je veux créer une galaxie, je crée une galaxie. Je veux créer un univers, je veux me donner toutes les expériences possibles et imaginables. C'est possible. La seule chose qui est impossible, d'après le cours, c'est de me décréer, c'est-à-dire de défaire ce que Dieu a fait en me créant. Donc je n'ai pas cette possibilité de revenir en arrière sur cette création, heureusement d'ailleurs. Parce que quand je dis quelles seraient les choses, comment seraient les choses si elles n'étaient pas ce qu'elles sont, eh bien, si j'avais cette possibilité, ben, je pourrais me décréer, et à ce moment-là, il n'y aurait plus personne pour en parler. Mais, comme je ne l'ai pas, alors le cours dit que je me suis assoupi un court instant, et je l'ai imaginé, je l'ai rêvé. Et en rêve, je peux faire n'importe quoi, je peux dire, je peux décréter que je suis limité, je peux décréter qu'il y a des opposés à l'amour, qu'il y a des opposés partout, il y a le jour et la nuit, il y a toi et puis il y a moi, et puis il y a des tas de sentiments opposés, la joie, la tristesse, des centaines d'états émotionnels. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais avoir moi en tant qu'être divin, enfin, je prends la parole au nom de cet être-là, que je suis, hein, avec un J majuscule et un S majuscule, je voulais avoir une autre perspective sur qui je suis, c'est-à-dire c'est comme si je voulais m'extraire de l'amour, c'est une façon de parler bien sûr, puisque c'est impossible, pour voir ce que c'est que l'amour avec une autre perspective, hein, sortir un poisson de l'eau, comme dit Simon Leclerc, pour qu'il sache vraiment que l'eau, ça représente tout pour lui, et qu'il n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Je trouve que c'est une très belle comparaison, parce que le poisson, il s'asphyxie hors de l'eau. Et nous, parfois, on est aussi, nous semblons nous asphyxier hors de l'amour, hein, parce que nous avons simplement l'idée, la pensée que nous sommes hors de l'amour, mais en vérité, nous n'avons jamais quitté la vérité, c'est-à-dire Dieu est. Nous n'avons jamais quitté la maison, cette maison de toute existence est dans cette maison-là et dans cette vie-là. Il y a une leçon du cours qui dit « Il n'y a qu'une seule vie et je la partage avec Dieu ». Et c'est aussi une parole d'unité magnifique pour moi. Parce que je peux arrêter de penser que mon corps naît, mon corps meurt, et que moi je cesse d'exister quand le corps cesse de fonctionner. Je suis vivant dans le ciel, dans le royaume, hein, comme dit Cabrel aussi, dans l'aquarium. Je suis vivant de toute éternité. C'est-à-dire que la vie n'a jamais commencé, la vie ne se terminera jamais. Il y a juste des rêves qui vont et qui viennent, des rêves de vie, des rêves de mort, des rêves de naissance, parce que j'ai choisi de continuer à expérimenter des tas de situations pour les mettre en perspective. Merci à Simon Leclerc, hein, si jamais Simon tu écoutes ces paroles, vraiment je te remercie beaucoup, parce que ce terme-là de perspective, ça m'aide beaucoup. Quand je suis Dieu est, alors... je ne peux pas faire l'expérience puisque c'est un état. Hein, et l'expérience, c'est réellement, j'ai besoin de faire un pas en arrière pour observer qui je suis. Et c'est à peu près ça ce que le cours décrit dans le chapitre qui s'appelle « Le héros du rêve » comme la petite idée folle. Et le cours dit aussi que le Fils de Dieu a eu une petite idée folle dont il a oublié de rire. Parce que comme c'est insensé, je peux bien rire du fait que j'imagine que je ne suis pas divin, que je ne suis pas illimité, que je ne suis pas pure lumière. Je peux bien rire de ça. Or, quand j'oublie d'en rire, là, je peux donner naissance dans mon esprit, que le cours appelle l'esprit faux, hein, puisque ce n'est pas l'esprit de l'unité, C'est l'esprit de séparation qu'on appelle l'ego aussi. Là, je peux donner naissance à toutes sortes de choses qui peuvent être plus ou moins désagréables à vivre. Donc, le monde de la séparation, nous connaissons tous très bien. C'est réellement ce monde où je suis sorti de l'amour et j'ai un appel en moi qui me dit « retourne-y ». Même si je suis profondément dans la dualité, même si je suis dans la souffrance, dans la douleur, dans la maladie, dans les conflits psychologiques, la dépression, cet appel-là, c'est comme un fil d'argent pour moi qui me relie en permanence à ma source, qui fait que je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas ma maison. Même si le voyage est imaginaire, puisque la séparation, c'est important de le répéter, n'a jamais eu lieu, puisque c'est un rêve. Le rêve n'est pas la réalité, par définition. Sauf que nous avons pris le soin de soigneusement oublier d'où nous venions, à part cet appel dont je parle, qui est engrammé vraiment, moi je le sens de plus en plus. Je sens que cet appel m'a même amené à bouleverser ma vie à un moment donné. Je sentais, j'étais marié, je sentais que j'avais à créer des groupes de spiritualité. Je sentais que j'avais à diffuser des choses. C'était très puissant, très fort, parce que cet appel-là m'a amené, là je peux le dire avec simplicité, vraiment, je ne pense pas me tromper aussi, m'a amené à arrêter la vie commune avec mon ancienne femme. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi j'arrête, mais il faut que j'arrête. J'ai autre chose à faire. Et donc le prétexte pour arrêter a été complètement futile. Pour la petite histoire, parce que ça me fait rire aujourd'hui, il y a un lave-vaisselle qui n'était pas vidé, et puis cette compagne que je chéris, que je bénis, parce qu'elle a été des occasions de me réveiller à moi-même, bien sûr, elle m'a dit, est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle? Et là, je me suis mis dans une colère, parce que j'avais autre chose à faire, du bricolage à faire, et j'avais l'impression de tout faire, et puis c'était trop, et puis qu'elle arrête de me dire quoi faire. Enfin, l'ego s'en est bien emparé. Et c'était un petit peu le prétexte. Je peux vraiment dire la perche que j'ai saisie pour apparemment donner une raison à la fin de cette expérience. Apparemment. Parce que, voilà, ça ne veut rien dire. Ça veut dire ça, là, qui est vide ou qui est plein. Ça ne veut rien dire du tout. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré dans une détermination à continuer tout seul qui est incroyable même aujourd'hui pour moi. Incroyable. Parce qu'il fallait absolument que je me retrouve seul pour ce que j'appelle l'œuvre. L'œuvre que je me sentais guidé à commencer ou à continuer ou à amplifier. Donc c'est ça l'appel. Je ne l'ai pas senti tout le temps, mais ce que je sais, c'est que quand j'ai commencé à être attiré par ce chemin-là, ça n'a fait que s'amplifier. C'est comme si j'avais ouvert un filon, et puis il y avait des pépites d'or, et plus je creusais, plus il y avait des pépites d'or, et plus j'étais subjugué, ou plus je disais, mais bien sûr, c'est évident, il n'y a pas à réfléchir. Vas-y, avance. Donc voilà, n'importe quel être humain sur Terre, même s'il a soigneusement oublié son état divin, son état de lumière, ça peut prendre une seconde ou ça peut prendre mille vies, cet appel-là est là. Et cet appel-là qui est engrammé à l'intérieur, quand les expériences auront été vécues, cet appel-là me dira quand est-ce que tu rentres à la maison, comment tu fais maintenant pour rentrer à la maison, pour sortir du rêve, ou pour faire du rêve qui est un cauchemar, pour en faire un rêve heureux qui est prévu au retour dans l'esprit juste, dans l'esprit un. Et je suis extrêmement joyeux de sentir cet appel. Vraiment, je suis extrêmement joyeux. Parce qu'il y a une part en moi qui sent qu'il est indéfectible, cet appel. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il pourra s'arrêter. Je ne peux pas l'expliquer non plus, là. Et je sens que même, il est appelé à grandir encore. Il n'y a qu'une seule chose dont je puisse témoigner, c'est qu'il se trouve dans le cœur, cet appel. Et que cet espace du cœur, c'est celui qui dirige ma vie. Hein. L'esprit 1, hein, le Saint-Esprit, ou l'espace du cœur, ou l'intuition, c'est exactement la même chose pour moi.
Je vais revenir sur la notion de grand écart dont tu parlais. Donc ce que je ressens, c'est qu'il est possible qu'il y ait une lutte en toi, justement par rapport aux deux mondes. Donc je pense que l'idée, c'est d'abandonner la lutte, c'est-à-dire de lâcher prise quand il y a justement, tu ressens un conflit. Et là, il n'y a pas de raison qu'il y ait de conflit. Le conflit vient de ce que tu luttes contre quelque chose. Et aussi que le mental accepte qu'il ne contrôle pas tout et qu'il n'a pas d'explication sur tout. Aussi. Des fois, c'est le doute revient par là. J'ai pas compris, c'est pas compréhensible. C'est une manière que l'ego a de se raccrocher, vouloir toujours te ramener vers un certain point. Parce qu'il lâche pas l'affaire comme ça, mais pas. Le mental agit toujours pour reprendre la main par la peur, par les doutes, par l'inquiétude, par tous ces phénomènes-là. C'est des fois très, très déstabilisant. Moi, j'ai une anecdote à ce sujet. Je viens de faire enlever une plaque que j'avais sur le poignet, là, une plaque de métal, parce que j'ai le poignet cassé. Et j'ai la trouille d'une anesthésie. Bon, ça, c'est humain. Et dès qu'on m'a annoncé que j'allais être opéré, il y a des rues où je passais, je voyais des magasins de pompes funèbres partout. Il y a des rues où j'étais passé des centaines de fois, peut-être pas des centaines de fois, mais j'avais jamais repéré qu'il y avait un magasin de pompes funèbres. Et en fait, j'ai tout de suite très rapidement fait le lien entre le fait que effectivement j'ai peur de l'anesthésie et mon mental qui se met à filtrer et me ramener en premier plan toujours des détails comme ça pour justement entretenir la peur, entretenir tout ça. Donc, je me suis dit, c'est mon mental qui me joue un tour, mon inconscient qui me joue des tours, et bon, ça n'a jamais pris d'amplitude, j'ai mécaniqué quoi. Mais des fois, c'était. ça fait drôle quoi. Donc le mental revient toujours à la charge, d'une manière des fois très 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 subtile. Mais il faut justement. Lâcher prise par. J'ai pas lutté, je suis pas rentré dans le jeu, j'ai dit bon, ça y est, mon mental me joue un peu. Et hop, ça s'est désamorcé. À chaque fois, ça s'est désamorcé très rapidement. Donc, je pense que le mot-clé, je sais pas ce que tu en penses, David, c'est ne pas lutter. Il n'y a pas de. Comme ça, il n'y a plus d'impression de grand écart. Sensation d'écartement.
Mais moi, ce que je sens, en fait, là, c'est bien parce que ça me fait préciser, mais j'en suis de ça. c'est vrai que je sens des envies personnelles et après il y a un conditionnement dont j'ai du mal à me libérer, un conditionnement familial, de la société, j'en sais rien, et qui me fait, par exemple, être dans une forme d'inertie, tu vois. Et je sens que plus je reste dans cette position, et plus à l'intérieur ça peut me déprimer, quoi. Alors que j'ai vraiment envie d'autre chose, mais que je ne me donne pas encore, en tout cas, le moyen de faire autre chose. Cette dualité-là aussi. Et c'est bizarre parce que le fait, c'est comme si ces deux mondes étaient en moi, quoi. Il est impossible de voir deux mondes. C'est vrai que ça, c'est bizarre de lire parce que c'est un truc qui est quand même assez récurrent chez moi de. Ce truc de la dualité, quoi.
Alors, nous avons choisi une expérience duelle. Hein, donc. Mais en même temps, je ne peux pas, dit aussi la Bible, je crois, je ne peux pas servir deux maîtres. Je dois choisir qui je sers. Et une phrase qui m'a beaucoup aidé, mais j'ai mis aussi du temps à la comprendre et à l'intégrer, c'est à partir de l'ego, il n'y a pas de solution. Je ne peux pas sortir de la séparation en me basant sur la dualité. C'est pas possible de compter sur mes propres ressources pour sortir, parce que c'est depuis le monde de la séparation, il n'y a pas d'issue, ça tourne en rond tout le temps. En d'autres termes, je ne peux pas partir de prémices de séparation pour appréhender l'unité, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je ne peux pas servir de monde, hein, je ne peux pas voir de monde. En même temps. Donc, quand je dis, quand j'ai entendu c'est pas possible à partir de l'ego de trouver une solution à la séparation, parce que l'ego c'est l'affirmation de la séparation, que la séparation existe. Donc, je ne pourrais trouver que des impasses ou des inconforts ou des conditionnements ou des doutes ou des limites ou des peurs. Et le mot clé, Alain en a parlé avec lâcher prise, et moi je dirais aussi confiance, hein. C'est un des mots vraiment fondamentaux dans cet enseignement. C'est une des caractéristiques des enseignants de Dieu, hein, dans le manuel pour enseignants. Ça vient en première position. La principale caractéristique des enseignants du cours, c'est la confiance. Et donc, la question qui vient immédiatement après, c'est alors comment faire? Alors je suis foutu, je suis bloqué dans ce monde-là, puisqu'il n'y a pas de solution. Partant de la dualité, il n'y a pas de solution. Eh bien, la solution, c'est la confiance. Parce que la confiance n'est pas de l'ego. L'ego ne fait pas confiance, c'est sa nature. La nature de l'ego, c'est de contrôler les situations. C'est d'agresser ou d'attaquer ou de se positionner en bourreau ou en victime. Mais jamais, c'est insensé pour l'ego, la confiance. Si je fais confiance, je vais me faire avoir. On va m'escroquer. Ou je vais... en sortir diminué ou et nous voyons bien à travers toutes ces alternatives que ça tourne en rond, ça rajoute de la dualité là où il y en a déjà un peu plus, de la séparation un peu plus. Donc je m'enfonce un peu plus dans la croyance que tout est séparé dès lors que je ne peux pas m'abandonner, lâcher prise ou faire confiance. Alors, ça mérite pour moi que de l'approfondir un petit peu. Hein, y a une partie qui est contenue dans un cours en miracle. Ça peut s'appuyer sur les cinq phrases que j'ai dites au début. Hein. je n'ai pas à me soucier de quoi dire ou quoi faire parce que je vais être dirigé, donc j'ai confiance. Je ne peux pas être dirigé par mon esprit juste si je suis tout le temps en train de contrôler. J'ai besoin à un moment donné de dire, c'est toi qui fais à travers moi, hein, c'est pas moi qui décide. Donc dans le cours, on dit il y a deux mondes et aussi il y a deux voies. Il y a la voie avec un X de mon esprit juste, celle qui parle lorsque je fais silence, lorsque je suis d'accord pour lui faire confiance, pour l'entendre. Et il y a la voix de l'ego que je connais bien, qui me dit doute, aie peur, ne fais pas confiance, agresse parce que c'est un ennemi, juge, sépare. La plupart d'entre nous n'ont pas besoin d'explications, hein, sur comment fonctionne l'ego, parce que la plupart d'entre nous sommes sur Terre pour expérimenter justement ces conditions de séparation. Donc la question qui se pose logiquement, naturellement, après, c'est comment entendre l'autre voix. Et c'est le titre d'un passage du cours, justement, comment entendre l'autre voix. L'autre voix, c'est la voix juste, c'est la voix qui va me guider pour sortir du rêve. Hein. Et c'est le monde de l'amour, le monde de l'unité, le monde réel, le monde, comme dit Matrix, hein, la pilule bleue ou la pilule rouge. Si tu choisis... la pilule bleue, et ben t'es dans le monde réel, même si ça a des aspects effrayants, bizarres, c'est le monde réel. Et l'autre, c'est le monde de la matrice, celui où chaque chose est programmée, celui où chaque chose se déroule exactement en fonction du programmeur. Donc même si ça peut paraître évident pour la plupart des gens, ce que je vais lire, à mon sens, c'est extrêmement puissant si c'est réellement appliqué. Hein. Comment entendre l'autre voix? C'est pas facile pour l'ego, hein, mais ça peut être pratiqué avec progressivité pour moi. Fais simplement ceci. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu. Tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même. Vide ton esprit de tout ce qu'il pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne, et de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours, et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. Personnellement, je suis très ému par ces phrases, hein. Je ne sais pas quoi en dire vraiment. Pour moi, elles contiennent aussi beaucoup de vérité. Hein. Et c'est très difficile pour l'ego, hein, de faire ce qui est dit là. Mais en même temps, je sais intuitivement que je peux m'entraîner à ça. Parce que j'ai une bonne volonté, parce que j'ai un appel. J'ai un appel à quitter ce monde de l'ego qui ne me satisfait pas, qui ne me rend pas heureux. Donc, quand j'entends « oublie tout ce que tu sais du monde », j'ai envie de dire oui, oui, oui. Quand j'entends viens les mains entièrement vides, j'ai envie de dire oui aussi avec confiance. Hein. Et je raconte ça souvent, mais une phrase qui m'a redonné beaucoup de confiance alors que j'étais pas du tout dans la spiritualité, hein, c'était il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années. J'étais indépendant et j'avais des craintes sur les revenus, sur. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas de visibilité du tout sur le travail qu'on pouvait m'offrir. Et quelqu'un m'a dit, Avi, rappelle-toi que tu es dans la main de Dieu. De Dieu. Et tout d'un coup, tout a basculé pour moi. Je suis ému, même en le racontant 20 ans après. Tout a basculé parce que tout d'un coup, je me suis dit, c'est vrai, j'ai rien à craindre. J'ai absolument rien à craindre. J'ai juste à continuer à faire ce que je dois faire, à faire confiance. Et parfois, c'est ça, c'est un petit déclic qui dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre? Il n'y a rien à perdre, tu es vivant éternellement. Tu ne peux pas mourir, tu es divin, tu es puissant, tu es en train de jouer la limite. Donc joue, vas-y, joue dans le théâtre. Mais joue avec joie, joue avec détachement. Viens les mains vides et puis essaye des choses qui n'ont pas été essayées avant par d'autres. Mets ta signature sur ce que tu fais, sur les actes de ta vie. Voilà, donc c'est des phrases que je peux lire à 21h21, hein, et souvent c'est répétition dans les cadrans qui sont de plus en plus fréquentes pour moi. Ce sont des petits signaux d'encouragement que de l'autre côté on nous diffuse pour garder la confiance, justement. Garder le fait que nous avons oublié, nous avons mandaté nos frères de lumière qui sont invisibles pour nous, mais qui sont des fréquences, des vibrations tellement élevées qu'elles sont invisibles. Et nous avons alourdi nos vibrations volontairement pour devenir matière, pour devenir dense. Eh bien, nous avons mandaté ces frères de lumière pour de temps en temps nous rappeler que nous sommes ici dans un jeu, que nous sommes ici dans une fabrique d'expériences. Mais que rien de tout ça n'est réel, que c'est juste on a décidé de jouer à qui nous ne sommes pas. Hein, c'est quand même très courageux, parce que en même temps, je suis rentré dans une pièce noire et j'ai fermé la porte derrière moi. C'est à peu près ça qui m'aide à me figurer ce que c'est que imaginer la séparation. Mais j'ai quand même, et c'est Simon Leclerc aussi qui dit, j'ai mandaté mes frères qui, eux, n'ont pas, sont restés dans ces fréquences-là, de m'envoyer de temps en temps des messages pour me rappeler qui je suis. Et c'est pour ça que ces textes canalisés, pour moi, sont tellement inspirants, sont tellement réconfortants, sont tellement rassurants, résonnent dans le cœur comme des vérités. Hein. Je ne peux pas expliquer pourquoi je les sens vrais, mais je les sens vrais. Je sens que... Donc on peut dire aussi, moi je me sens guidé à dire que l'autre voix, c'est rien d'autre que moi-même. Moi-même dans des vibrations plus élevées. Mon double. Hein. Ça peut être dit comme ça. Ça peut être dit comme étant le Saint-Esprit, ça peut être dit comme étant Dieu lui-même. Mais une autre version de moi-même qui n'a pas rêvé ce rêve, qui est resté dans la source et qui m'envoie de temps en temps des indices pour me dire réveille-toi vie, réveille-toi, c'est pas vrai tout ça, c'est juste un jeu que tu as choisi de jouer. Alors moi je peux dire une chose, mais vraiment une chose de ma vie personnelle, c'est que je ris de plus en plus, et pas par dérision, je ris de tout ce qui m'arrive. Quand je renverse un truc, je me marre. Alors qu'avant, je m'énervais, j'amenais la serpillière et je maudissais ma maladresse. Et maintenant, j'amène la serpillière et je ris. Et je dis, oui, j'ai renversé. Bon, bah, j'y suis. Donc, j'ai renversé, j'y suis. C'est un super indice pour moi, le rire. Le rire, c'est cette distance salutaire qui fait que j'ai rêvé, mais j'ai pas oublié d'en rire. J'ai rêvé que j'étais séparé. Quand je pourrais me rappeler de rire de ce rêve, alors le rêve va se dissoudre puisque je peux déclarer qu'il n'est pas réel. C'est fort, hein, ça. Ça, c'est très fort pour moi. Et quand je vois que le rire prend plus en plus de place dans ma vie, c'est que rien n'est vraiment sérieux. Dit d'une autre manière, tout est neutre. Si je décide d'en faire un drame, c'est un drame. Si je décide d'en faire un cauchemar, c'est un cauchemar. Si je décide de voir des pompes funèbres partout, ben j'en vois. Mais en même temps, ça peut être des pompes funèbres, ça peut me faire rire. Parce que je me dis, tiens, mon esprit est super puissant. Hein, parce que je ne les voyais pas, et maintenant que je suis dans la peur, j'en vois partout. Ça peut être très, très drôle aussi, si je ne prends pas ça au premier degré. Et le premier degré, la séparation, c'est prendre les choses au premier degré. La séparation, c'est vraiment ça pour moi. Prendre ce rêve au premier degré, c'est-à-dire, oh, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, où je... Oh, mais ça s'est vraiment passé. Oh, où j'ai atterri? Mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Mais il n'y a plus... Oh, et puis de là, naît la culpabilité. Et nous savons tous ce que culpabilité veut dire. C'est pas pour rien. Parce que j'ai cru, en me séparant de la source, en imaginant, que, eh bien, j'avais fauté, j'aurais pas dû. Parce que comme je ne me rappelais plus tout d'un coup qui j'étais, j'avais plus de contact direct avec ma source de conscience, je me dis, la lourde gaffe que je viens de faire. Mon père va être super en colère après moi. Et c'est pas rien, hein, c'est pas... moi je ressens, je ne peux pas l'expliquer non plus, mais je ressens que n'importe quelle culpabilité que j'ai, elle est issue de celle-là. Que si je vais suffisamment loin chercher son origine, sa cause, à un moment donné, je vais dire cette phrase qui pour moi était le déclencheur, ah ben oui, j'ai l'impression de manquer d'amour. Hein?
Je vais revenir justement sur la culpabilité et le mot que tu as cité, je maudissais ma maladresse. Mmh. En fait, une bonne manière de progresser, c'est l'amitié avec soi-même, c'est-à-dire accepter aussi bien ses qualités que ses défauts, s'accepter tel qu'on est, en sachant qu'on est en transformation, qu'on va de plus en plus vers le non-duel. Mais on ne peut pas passer brutalement de l'un à l'autre. Donc il faut accepter la base de départ que l'on est, de travail, comme une base de travail, avec tout ce qui sera facile, difficile, les mal-être, ainsi de suite, observer, et surtout ne pas culpabiliser, ne pas dire je suis nul, ne pas plus d'une seconde. Ça fait partie de la confiance, l'amitié avec soi-même. C'est un bon moyen justement d'avoir une confiance en soi. Bon, si on a loupé quelque chose, c'est pas grave, c'est pas dramatique. La prochaine fois, j'essaierai de prendre le peu, tu vois. Je vais pas me faire tout, je vais pas me maudire pendant des heures, parce que si, parce que ça. Ouais.
J'ai aussi cette sensation, l'impression d'avoir manqué d'amour, etc. Mais c'est pas les paroles du cours, moi, qui me remplissent, par exemple, d'amour. Quoi. C'est l'expérience que j'aurai dans ma vie au quotidien. Donc, c'est quand même... Là aussi, je sens aussi le grand écart. Quoi. Je sais, dans ma tête, il faudrait que je vibre autrement, que je vibre pleine d'amour. Mais des fois, j'ai pas les outils, quoi. Ou peut-être le manque de... Je ne me suis pas donné assez d'expérience de ça, j'en sais rien.
Mais c'est un passage assez primordial, hein, cette sensation de manquer d'amour.
Je pense que tu as la volonté. Tu as une volonté de transformation. Et c'est peut-être ça l'obstacle, c'est-à-dire faut laisser les choses se faire. Justement, quand on veut trop forcer les choses, on veut, ça implique une lutte avec soi-même. Faut se relier aux choses, je dirais. Simplement en se reliant, il n'y a pas de but, c'est du ressenti, faire la place au ressenti. Sans exigence, sans... C'est ce que je ressens par rapport à tes paroles. Mais c'est peut-être plus fin, plus subtil que ça.
Je sens de dire que le cours en miracle, c'est un outil parmi une infinité d'autres pour revenir à la maison. Et s'il est juste, il est juste, et s'il n'est pas juste, eh bien on repose et on ouvre autre chose qui nous parle. Parce que c'est de ça dont il est question. Est-ce que ça résonne comme une vérité en moi et j'ai envie de la suivre parce que ça me fait devenir plus grand. Je rayonne plus qui je suis quand je suis dans l'application de cette vérité, ou pas. Hein. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai lu, comment entendre l'autre voix, oublie ce monde, oublie ce cours. Hein. Donc même le cours, si c'est juste, c'est qu'un levier. C'est un levier parce que il est clairement dit que c'est pas le seul moyen de sortir du rêve, mais il est dit aussi que c'est un des plus rapides parce que il y a un désapprentissage progressif de l'ego au moyen des leçons de chaque jour. Ça demande bien sûr que ça résonne et ça demande aussi une bonne volonté pour se discipliner à le faire. Parce qu'il est dit explicitement, il n'y a pas besoin d'y croire. Hein, il y a juste besoin d'une bonne volonté pour suivre le cursus. Même si je n'y crois pas, et c'est normal qu'il y ait beaucoup de résistance, puisque nous fonctionnons dans ce monde de dualité avec un ego hein, qui, lui, ne veut surtout pas changer l'ordre établi, s'accroche au connu, et c'est...
qui fonctionne par réaction aussi.
Voilà. Donc... ceci n'est pas un groupe de partage sur un cours en miracle, mais c'est un groupe de partage autour d'enseignements non-duels dont l'un d'entre eux est un cours en miracle. À un moment donné, il est arrivé dans ma vie, et je pense que c'est tout sauf un hasard, j'ai eu des synchronicités, plusieurs personnes m'en ont parlé, différentes, qui ne se connaissaient pas entre elles. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de m'y pencher. Mais en vérité, c'est un manuel pour enseigner à l'esprit de voir différemment. Et c'est quelqu'un dit qu'il y a seulement six idées majeures dans le cours, et elles sont répétées 110 fois chacune ou 120 fois chacune, tout le temps. C'est holographique, je peux l'ouvrir n'importe où, et puis la phrase qui va être devant mes yeux, ça va contenir cette vérité-là, parce que c'est dit de plein de manières différentes. C'est pour ça que si j'ouvre les lettres de Yeshua, je vais retrouver la même chose, mais encore dit d'une autre manière. Si j'ouvre Gary Renard, je vais encore trouver ça. Si j'ouvre Dialogue sur l'éveil, ou Abraham X, ou n'importe quoi, ce qui est important, c'est est-ce que ça fait rayonner qui je suis? Est-ce que ça me donne envie de rayonner qui je suis ou pas? Et il n'y a aucune obligation. Et j'aime bien citer la leçon qui dit ça, qui dit, vous n'avez rien besoin de faire. Vous sentez de faire des choses, vous les faites, mais il n'y a pas besoin. Si on me dit, signe une pétition pour sauvegarder les dauphins, je vais peut-être être guidé à le faire par mon cœur, et puis après je vais me dire, non, moi je ne sens pas d'aller dans la réactivité, de faire la guerre à la guerre. Hein. C'est d'une certaine manière, j'ai plus ou moins arrêté de signer des pétitions, parce que je ne me sens pas d'être dans la réactivité. Pour moi, c'est juste ça. Donc, certaines leçons sont parlantes, d'autres sont moins. Certains paragraphes peuvent sembler hermétiques, d'autres coulent comme du petit lait. Moi, j'ai lu 150 pages, je l'ai posé pendant 9 mois. Donc, il y en a qui le jettent à la poubelle. Hein. Et puis pour d'autres, c'est une révélation. Il n'y a pas de vérité. Ce que je sais, moi, c'est que quand j'ai lu, les 5 premières pages, j'ai eu le sentiment... je le sais déjà. C'est ça la résonance. Il y a une cloche qui sonne, et moi j'ai une cloche qui est à côté, bah, se met à résonner avec l'autre cloche. Et ces mots, c'est des vibrations, et ça fait vibrer aussi. Ce que je n'ai pas complètement oublié, parce qu'il me semble que c'est ça qui résonne, c'est ce qui est encore, cette vérité-là, elle est, je la porte en moi. C'est ce monde-là qui est en moi, ce monde de l'amour qui se manifeste, et c'est des petits rappels qui me disent « Mais tu le sais, rappelle-toi que tu le sais. » C'est dit d'une autre manière, mais tu le sais. Tu sais déjà tout ça. Et je me sens très fortement guidé à lire quelques passages d'un texte qui est arrivé dans ma boîte mail aujourd'hui, et je n'y vois pas du tout de hasard, qui est signé Yeshua, donc le même auteur que Un cours en miracle, Dialogue sur l'éveil, les lettres de Yeshua, les messages de Yeshua, et puis plein d'autres qui sont même pas forcément de Yeshua. Transmis par Pamela Krieb, hein, donc c'est sur le site qui s'appelle Yeshua.net, hein, J-E-S-H-U-A, Pamela Krieb, et voilà, très puissant pour moi, très facile à lire aussi. Et il y a quelques phrases qui ont bien résonné, j'ai envie de... On peut élaborer un peu dessus, hein, j'ai envie de les lire. C'est possible d'interrompre au milieu s'il y a quelque chose qui vient à propos de cette phrase, hein, c'est tout à fait adéquat. Le cœur établit la reliance. Le cœur, c'est là où on est à la maison. Se sentir chez soi, c'est être relié. Relié à soi-même. En profondeur, votre être est toujours relié au tout, avec un grand T. C'est un texte qui fait 5 pages, hein, mais il y a certaines phrases qui ont résonné plus fort et qui sont tellement en adéquation avec ces groupes de partage que c'était évident qu'il est arrivé à point nommé. Un peu plus loin, il dit « Chacun de vous fait partie d'une entièreté infiniment immense qui est éternelle tout en étant dynamique et variable. La vie est en mouvement constant dans une danse sans fin de manifestation et de retrait, de naissance et de mort, de création et de lâcher prise. En tant qu'être humain, vous participez à cette danse créatrice sous votre forme actuelle d'homme ou de femme. En même temps, il y a un noyau divin et indestructible en vous, indépendant de toute forme. » C'est ce genre de parole qui me donne confiance, hein, personnellement, ou qui renforce ma confiance.
Il y a un message qui est très important, la notion de reliance. Mmh. La manière dont je suis relié avec moi-même et la manière dont je me relie au monde. Mmh. Il s'agit bien de, justement, de se relier, non pas de posséder ni de s'agripper au monde. Mmh. C'est, je me relie, c'est-à-dire Jacques. Il est comme il est, je l'accueille, mmh. Je me relie.
Oui.
Je sais pas de le posséder, je sais pas de le déformer, je sais pas. Non, il est comme il est. Je me relie. Comme avec une personne, je me relie à une personne. C'est neutre. C'est pas une amie, c'est pas une ennemie. C'est neutre, je me relie. Il n'y a pas de connotation derrière. Donc j'accepte ce qui va arriver.
Oui.
En fait. Et je crois que c'est pour moi le plus important quand on évolue, justement, cette manière de se relier différemment. C'est pas quelque chose de constant, c'est de plus en plus fréquent où on change de mode. Tout le monde, je me relis. Je comprends pas, oula, ça faut, c'est pas grave, je me relis. Et simplement en me disant ça, je ne cherche plus à contrôler. Je me relis.
Oui.
Donc, et 5 pages comme ça, c'est costaud. Hein.
Alors, en introduction, Yeshua dit « Je suis Yeshua, je représente une énergie nouvelle sur Terre, l'énergie christique. » Et ensuite, il définit l'énergie christique. C'est une énergie ou une conscience qui reconnaît l'unité en tout ce qui existe. C'est simple, simple et percutant. Et puis, ce texte est très intéressant parce qu'il parle de la dualité, il l'inclut pleinement, hein, comme étant le choix que nous avons fait. Donc ça sert à quelque chose. Ce n'est pas juste un rêve inutile. Ça sert, c'est un outil. La dualité, c'est un outil. En soi, c'est neutre. C'est-à-dire que c'est un support pour faire des expériences. Tu peux en faire ou pas en faire. Donc il dit aussi, en traversant toutes vos expériences difficiles, vous avez obtenu une compréhension intime de ce qu'un être humain peut ressentir en faisant l'expérience de toutes les fluctuations émotionnelles. Ça me rappelle beaucoup ce que Yeshua disait en août dernier quand j'étais en Angleterre par la bouche de Jayem, hein, où il disait une chose qui m'a beaucoup parlé, beaucoup touché. Il dit, vous avez choisi d'endosser le manteau des émotions négatives, de la haine, de la souffrance, de la dépression dans vos vies, pour ensuite appréhender l'expérience de vos frères depuis la connaissance de ce que c'est cette émotion. Quand je sais ce que c'est que la haine ou la dépression, et que j'en ai fait le tour et que je l'ai guéri, alors je ne peux plus juger mon frère qui est dans la haine ou dans la dépression. Donc j'ai ces émotions négatives, elles ont servi à ça. Elles m'ont enseigné ça pour que je puisse soutenir grâce à ça. Parce que j'en ai fait l'expérience. Donc c'est important, hein. Ces expériences que nous qualifions de négatives, elles sont importantes parce que avec ça, je vais pouvoir embrasser toute situation en sachant de quoi je parle. Hein, quand je vois quelqu'un qui est avare, fortement relié à la sensation du manque, je vais manquer. Hein, si je... Et ben moi, j'ai connu l'avarice dans ma vie. J'ai connu le fait de compter chaque centime, de regarder les différents prix, de faire un grand tour avant d'acheter, ce sentiment de « il faut vraiment que j'achète le moins cher possible ». Et parfois même au détriment de la qualité, j'ai connu ce manque existentiel qui dit non, je ne vais pas me faire avoir, je vais avoir le moins cher possible, ils ne vont pas m'avoir, hein, ça parle de ça. Et bien aujourd'hui, quand je peux voir quelqu'un qui est dans ce que d'autres appellent la mesquinerie ou l'avarice, et bien je suis comme apitoyé parce que. Et apitoyer, c'est peut-être pas le bon mot, c'est plus la compassion, parce que prendre pitié, c'est autre chose. J'ai de la tendresse, parce que je sais ce que c'est. C'est important, donc quand je vis toutes ces choses-là, ces expériences-là, sont en fait très utiles, mais je dois apprendre à les guérir, et quand je les ai guéries, je peux aider à ce moment-là. Je peux aider... Je peux aider l'autre ou je peux l'accueillir tel qu'il est, parce que c'est ni bien ni mal d'être dans ce sentiment de manque ou ce sentiment d'avarice. C'est l'expérience que son âme, en tant que partie élevée lui-même, a choisi de vivre pour avoir une autre perspective de « et si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont ?» Donc Yeshua dans ce texte nous dit cette chose formidable. Soyez qui vous-même vraiment, c'est-à-dire n'essayez pas de copier quelqu'un.
Qui vous êtes.
Qui vous êtes. Oui, j'ai dit autre chose. Soyez vous-même. Ben oui, soyez qui vous êtes. Alors il dit, peu importe ce que vous faites, boulanger, enseignant, artiste, thérapeute spirituel, donner le meilleur de soi signifie exprimer votre individualité et la partager avec le monde entier. Le monde est incomplet sans vous. L'univers attend votre contribution plutôt qu'une copie ou une reproduction que vous avez faite de la contribution de quelqu'un d'autre. L'univers veut vous encourager à laisser couler votre énergie unique. Par conséquent, incarner ce que vous êtes de plus élevé se réfère à être vous-même et exprimer votre individualité. Voilà, et un peu plus tard, peut-être je le dirai ou peut-être pas, mais il exprime le fait que lorsque je me laisse guider à vraiment rayonner qui je suis, c'est-à-dire je ne suis pas en train de faire comme quelqu'un d'autre, c'est ça que j'ai à faire sur Terre. Comme moi, à un moment donné, je me suis dit, moi je dois rassembler les gens, moi, c'est ma mission, je balaye tous les obstacles et je fais ça. Hein, c'était tellement fort. Donc, quand je commence à rayonner qui je suis, l'univers commence à se mettre à mon service. C'est-à-dire, tout est organisé, tout est fluide, j'ai l'abondance, j'ai le loft qu'il faut, l'argent pour payer le loyer, tout est parfait, quoi. Parce que je commence à danser avec l'univers dans le sens de la danse de la création. Et c'est quoi la création ? Il y a un mot, une définition qui me plaît beaucoup, c'est l'extension de qui je suis. C'est-à-dire, qui je suis devient un peu plus grand. Et c'est comme ça que Dieu nous crée. Nous sommes l'extension de Dieu, c'est-à-dire lui-même un peu plus grand. Et il n'y a pas de limite, hein, c'est à l'infini l'extension. Et nous prolongeons en fait l'œuvre de Dieu en faisant ça. En incarnant qui nous sommes au plus près de notre rayonnement, hein, celui qui fait que nous sommes vraiment vivants. Et plus tard, il dit, la vie vous dit oui de tout cœur si vous dites oui à la vie sans restriction. C'est-à-dire, ça parle bien de la confiance, ça parle, j'ai envie de faire ça, mais mon ego me dit, ça va rater. Où mon ego me dit, t'es pas fait ou faite pour ça. Où mon ego me dit, t'es sûr que c'est ta mission. Voilà, l'ego, c'est le saboteur. Hein. C'est le doute. Mais si je dis oui sans restriction, c'est-à-dire si j'abandonne la logique et je commence à faire confiance, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend joyeux ou joyeuse? Et là, j'y vais, ça veut dire je plonge dans la piscine, je ne sais pas quelle est la profondeur du bassin, je plonge tête baissée et je me dis si c'est ma mission ça va bien se passer, hein, Henri Gougo qui dit la confiance c'est la certitude que rien n'est sûr mais que tout va bien se passer. Donc si j'ai confiance, l'univers me dit oui aussi. Et si je peux bien dire une chose, c'est que au moment où j'ai choisi de plonger, en quittant en dissolvant mon mariage, hein, ma vie maritale, si j'ai choisi de plonger, à partir de ce moment-là, j'ai rencontré pas une abondance, mais une série de synchronicités d'abondance. C'est pas seulement l'abondance matérielle, c'est pas seulement le grand lieu dans lequel je suis, c'est l'abondance de joie, c'est l'abondance de je donne et puis je reçois en même temps. Cette abondance-là, c'est plein de signaux que c'est juste, qu'il n'y a pas besoin de me poser de questions. C'est je vais avec l'évidence. C'est quoi l'évidence? Fais ce pourquoi tu es sur Terre, à vie. Et je sais pourquoi je suis sur Terre maintenant. Mais je n'ai pas toujours su. Hein. Voilà. Et quand je ne sais pas pourquoi je suis sur Terre, moi je peux dire pour moi, qu'est-ce qui me rend joyeux? Qu'est-ce qui me met en joie? La joie ne peut pas se simuler. C'est on est joyeux ou on n'est pas joyeux. Sylvain, que j'honore maintenant, s'il écoute cet enregistrement du fond de son lit, dit une femme est enceinte ou n'est pas enceinte. C'est pas entre les deux. Hein? Il n'y a pas d'état intermédiaire. Je suis joyeux ou pas. Je ne peux pas être un peu joyeux. Je suis amoureux ou pas amoureux. C'est un état. L'état, je suis en amour. Je ne peux pas décréter d'être en amour. Donc, qu'est-ce qui me rend joyeux? Qu'est-ce qui me fait du bien? Comme si j'étais dans un bain moussant qui fait tout l'univers et c'est tiède et c'est parfumé. C'est ça l'état d'être joyeux avec la création. Et quand je ressens ça, qu'est-ce qui peut amplifier ça? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour encore me sentir plus là-dedans? J'ai envie de faire du théâtre? Je fais du théâtre. J'ai envie de modeler la terre? Je modèle la terre. Qu'est-ce que ça va être l'étape suivante? Je n'en sais rien. Et c'est très bien comme ça. Je fais confiance. Parce que comme la joie s'étend, eh ben je vais mettre en action ce qui me rend joyeux. Je vais modeler la terre. De cette joie-là va naître une autre joie que je ne connais peut-être pas maintenant. Elle va grandir encore. Et tout d'un coup, je vais dire, ah ouais, j'ai trouvé un truc. Tiens, je vais créer un groupe hein, pour partager ce que je viens de trouver là. Et hop, voilà, et l'abondance arrive. Hein. Ouais, c'est 10 euros, c'est 5 euros. C'est... Et puis après, je sens de faire une expo, je sens, voilà, je laisse faire les choses. Mais moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est le premier pas. Ce premier pas, c'est l'extension. Parce que je sors de mon petit chez-moi qui semble limité, qui semble contraint, qui semble apeuré, et je mets un pas à l'extérieur dans la lumière de qui je suis. Et quand je fais ça, et bien je fais ce pourquoi je suis sur Terre. Mais j'ai besoin, comme j'ai le libre arbitre, puisque c'est moi qui ai décidé l'expérience de la dualité, personne d'autre que moi ne peut me faire sortir du rêve. Donc, quand je dis ça, ça me rend joyeux, et donc je fais ce pas-là, alors je suis moi-même en train de sortir du rêve. Puisque si quand je serai pure joie à chaque instant, tout le temps, pur amour, ben, c'est fini. Je serai réveillé, je serai éveillé, même, on dit. Donc, ça demande notre bonne petite volonté. Hein, ça demande que nous fassions quelque chose de personnel, que personne d'autre que nous, en tant que pièce du puzzle, ne peut faire. Parfois c'est effrayant, parce que c'est à nous de l'inventer, personne ne peut nous le souffler. Mais quelqu'un peut me donner envie. Je dis, et dans envie, il y a aussi en et vie. Hein. Je suis en vie tout d'un coup. Et tout d'un coup, je me dis... Ah ouais, c'est super ce qu'il dit. Oh, moi j'ai aussi envie de faire ça. Ça résonne bien. J'ai envie d'écrire des poèmes. Allez, j'y vais. Je ne sais pas ce que je vais écrire, mais je prends mon stylo et ma feuille. Voilà, j'ai envie de faire un groupe de développement personnel sur tel thème. Ça va peut-être pas marcher, mais j'y vais. C'est pas grave. Si ça marche pas, ben, c'est que c'était pas juste. Hein, c'est qu'il y a autre chose à faire. Mais je fais mes expériences. Donc, poser sa signature sur chacun des actes de sa vie, comme disait Osho, pour moi, c'est vraiment de la plus haute importance. Ça n'a pas l'air hein, comme ça. Enfin, peut-être ça a l'air, mais pour moi, c'est l'essence même de notre présence sur Terre. C'est poser sa signature, marquer les choses avec notre emblème, notre signature.
Et donc c'est l'authenticité. Et cette envie, cette authenticité fait qu'on a envie de jouer un personnage. En fait, on ne joue pas de personnage, on n'a plus besoin de jouer un personnage.
Oui, super. Super.
Et c'est là que les choses, justement, dans les relations avec les autres, changent. Parce que inconsciemment, les autres perçoivent qu'on est sincère et authentique. Mmh. On n'est pas en train de chercher à les embrouiller. On est comme on est.
Oui.
On est bon. Ils perçoivent aussi qu'on n'est pas arrogant, pas agressif. et progressivement, eux aussi baissent les armes. Progressivement. Ça, j'ai noté ça régulièrement dans mon environnement de travail. C'est souvent assez agressif, assez arrogant. C'est pas facile au début d'être authentique, parce que c'est pris pour de la faiblesse. C'est pris pour de la faiblesse. Mais sur le moyen terme, c'est payant.
Personnel, c'est que souvent je remets à plus tard ce que je sais que je devrais faire maintenant, mais je dis mais jusqu'à quand quoi, parce que je suis tout le temps en train de remettre à plus tard. Et je me dis aïe aïe aïe, c'est grave quoi, parce qu'à un moment ce sera trop tard pour le coup. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'attends toujours quelque part une autorisation, qu'on me dise ça y est, tu peux. Ça, je sais que c'est plus juste, mais que j'ai encore du mal à me sentir soutenue moi-même ou à me soutenir moi-même dans ma propre démarche. En tout cas, ça m'aide ce que tu dis, c'est bien de l'entendre.
Il y a une phrase, il y a deux mots que tu as prononcés qui sont d'une extrême importance et qui contiennent tout, toute la réponse à cette question, c'est jusqu'à quand. Ce jusqu'à quand-là représente l'appel à te réveiller, parce qu'il y a un endroit qui trépigne à l'intérieur. Et c'est ça l'appel vers la lumière, c'est jusqu'à quand je vais dormir. Mais c'est formidable pour moi, c'est d'avoir cette conscience du jusqu'à quand je vais répéter de ne pas être moi-même, jusqu'à quand je vais réfréner qui je suis de s'exprimer, d'être sortir du personnage. C'était magnifique parce que quand je n'ai plus besoin de jouer un personnage, à ce moment-là, je vois que je jouais un personnage. Et l'ego est défait. Hein. Le cours emploie ces mots, défaire l'ego. Parce que l'ego, c'est une pensée, c'est rien d'autre qu'une croyance. J'ai besoin de jouer un personnage. Quand je vois le personnage, ben, qui regarde le personnage? C'est ça qui est beau. C'est qu'il y a quelqu'un pour regarder le personnage. Quand je dis quelqu'un, c'est plus un être suprême qui observe. Donc, à partir de qui dit jusqu'à quand? Sûrement pas l'ego. C'est bien parce que quand je peux m'observer en train d'agir, en train de faire quelque chose dans ce monde où je ne suis pas heureuse, et bien la question c'est qui observe ça? Le fait est qu'il y a un observateur, il y a une observatrice qui dit jusqu'à quand. Et cette observatrice-là, elle est dans l'unité. Où l'observateur, le témoin est dans l'unité, puisque c'est lui qui peut observer l'ego et son personnage. C'est pas l'ego qui va s'observer lui-même. L'ego est incapable de faire ça. Je peux pas observer la peur depuis la peur. C'est tellement agité qu'il y a besoin d'être posé pour observer. Donc, il y a un fil d'Ariane qui mène à la lumière. C'est jusqu'à quand dans ce cas-là? Parce que c'est, comme disait Hélène Schuckmann, il doit bien y avoir une autre voie. Et ça a donné un ouvrage qui est diffusé à des millions d'exemplaires dans le monde. C'est une autre voie, une voie. Mais on a tous, nous avons tous, à un moment donné, ce ras-le-bol de ne pas être qui nous sommes. C'est-à-dire, quand je dis ras-le-bol, c'est peut-être pas le... C'est cet appel à nous rappeler de qui nous sommes, cet appel pressant, il est pressant. Moi, à un moment donné, mon parcours thérapeutique a commencé d'une manière vraiment très symbolique. Je suis allé voir une relaxologue parce que j'étais très énervé. Après une femme, merci à toutes les femmes que j'ai croisées parce que m'ont beaucoup aidé. Parce que là, ça a été le début d'ouvrir la grande porte. Et la première chose que j'ai dit à cette thérapeute, j'étais extrêmement timide et je regardais personne dans les yeux. Je lui ai dit, j'en ai assez d'être comme ça, j'ai pas envie de mourir comme ça. Cette phrase-là, c'est ça, c'est jusqu'à quand ? C'est, j'ai pas de temps à perdre, j'en ai perdu, j'ai le sentiment. Mais c'est une illusion, puisque le temps lui-même n'existe pas. J'ai créé le temps avec tout le reste. Mais dans cette illusion-là, je semble avoir tourné en rond, expérimenté des choses désagréables, des douleurs, des souffrances, des jalousies, des manques, des culpabilités, la liste est longue. Je vous épargne le reste. Et puis, à un moment, peut-être, je fais le tour de la plupart de ces choses, et là, je commence à dire, est-ce que je reprends un tour de manège, ou est-ce que je fais autre chose maintenant ? Puisque j'ai testé ça, voilà, j'ai testé la jalousie, moi j'ai testé la haine, j'ai pas envie de reprendre le pompon, j'ai pas gagné un tour gratuit hein, sur le manège. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas envie de mourir timide, parce que j'ai autre chose à faire dans ma vie que de baisser les yeux, et que de ne pas croiser le regard des gens, parce que ce jour où je suis rentré chez moi, après la séance de thérapie, j'ai jardiné, et chaque personne qui passait, je les regardais dans les yeux. Jamais de ma vie, j'oublierai ce jour, le nombre de bons jours que j'ai eus. Et ça a dépendu de moi. De jusqu'à quand je vais garder les yeux au sol. Hein, jusqu'à quand, ça voulait dire, je vais considérer que l'autre va me tuer. C'est une menace pour moi. L'autre est un ennemi. C'est ça quand je baisse les yeux et quand je suis timide. L'autre est dangereux. Donc si j'affronte son regard, je vais être tué à la Kalachnikov avec une rafale de mitrailleuse.
Mais je sais aussi, moi, pardon, ce qui me, à chaque fois, ce qui m'arrête, c'est le regard. Enfin, c'est pas que je sens, j'en sais rien, c'est un regard. Mais j'ai l'impression de ce regard jugeant sur moi tout le temps. Alors est-ce que c'est peut-être ma paranoïa ? Je pense que c'est ma paranoïa personnelle, maintenant je me rends compte. Mais tu vois, c'est comme si j'avais un regard au-dessus de moi qui n'arrêtait pas de me juger, quoi.
Jusqu'à quand, moi je l'interprète comme le symbole d'une lutte. Justement, s'il y a mal-être, si les situations de mal-être comme ça, une souffrance, le seul moyen de les désamorcer, c'est de les observer. C'est ces instants-là, tu les observes. Et à ce moment-là, ils déjà perdent de leur pouvoir, perdent de leur intensité, et progressivement, il y a probablement un schéma. Il y a probablement quelque chose d'ancré en toi, une empreinte qui est assez profonde. Tu sais, bon, c'est pas forcément utile de savoir d'où ça vient. Ce qui est important, c'est de la désamorcer, en désamorcer le pouvoir. Et un des seuls moyens, je pense, c'est observer ce qui se passe en toi. Pourquoi cette situation, il y a un mal-être, c'est quoi ce mal-être ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Pourquoi ? Comment ça se déroule ? Et progressivement, tu vas te rendre compte que c'est toujours le même processus qui se met en route. Et en l'observant, il va se désamorcer progressivement. Si tu pourras dire, c'est encore le même truc. C'est encore j'ai l'impression que l'autre est en train de me juger. Mais c'est probablement pas vrai. Simplement en observant.
Alors moi, en écoutant ce que tu dis, me vient une phrase de Krishnamurti qui me parle beaucoup. Et il parle du premier pas. Et il dit, le premier pas est le début, et le premier pas est la fin, et le premier pas est le seul pas. ce qui pour moi, je l'interprète comme quand je fais le premier pas, il contient l'énergie de tous les autres pas. Il s'auto-alimente. C'est, je ne sais pas où je vais, mais je fais un pas. Je ne sais pas si je vais être jugé ou pas, mais je fais un pas. Je veux dire que j'ai confiance que dans ce pas-là, il y a tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire aussi l'antidote au jugement. Parce que le regard de l'autre, c'est très répandu comme peur. Si l'énergie avec laquelle je fais le premier pas contient le désir d'avancer. Et dans ce désir d'avancer, je me donne à moi-même un cadeau. Je me donne à moi-même le cadeau de me dire « je suis vivant, je suis vivante » puisque j'ai avancé avec cette vie-là. Et là, il y a un passage qui parle un petit peu de ça, hein, de Yeshua. Dès l'instant où la pièce de puzzle que vous êtes se met à la bonne place, vous contribuez au puzzle d'une façon que personne d'autre ne peut faire. À cet instant précis, vous recevez aussi quelque chose de très précieux. Vous rentrez chez vous. Vous vous sentez en harmonie avec la totalité. Vous avez le sentiment que la vie vous soutient et que vous êtes en sûreté. Vous savez que votre contribution est essentielle et vous avez l'impression que la totalité vous reçoit avec joie et appréciation. Voilà. Quand je suis la pièce du puzzle, alors le fait de m'emboîter à ma place contient toute l'énergie pour que je reçoive joie et appréciation. Hein? Donc tout ce qui m'est demandé, c'est de faire le premier pas, d'emboîter cette pièce de puzzle là où elle doit aller. C'est quand même, voilà, ça demande de la confiance, c'est effrayant pour l'ego, mais j'ai souvent entendu, et dans le cours c'est aussi rappelé, que donner et recevoir sont la même action. C'est-à-dire, dans l'énergie de donner, il y a ce que je reçois qui est engrammé déjà, parce que je me donne à moi-même cette énergie-là d'être généreux ou de donner quoi que ce soit.
Ce que dit Arnaud Desjardins, être, donner, recevoir.
Vous avez tous un ardent désir de la lumière, de la liberté inhérente au fait de s'abandonner à ce que vous êtes réellement. S'il vous plaît, réalisez que vous allumez la plus grande lumière en vous en étant désireux d'accueillir les parts de vous les plus sombres et les plus négligées. Donc, ça c'est une partie importante de ce message, accueillir l'enfant intérieur qui a peur. L'enfant qui est dans le coin d'une pièce et qui ne bouge pas. Ce qui l'appelle aussi l'ombre, hein, éclairer cette ombre-là de notre lumière. Lorsque je fais ça, hein, lorsque je vois les parties de moi qui sont dans le doute, dans la peur, et que je les accueille, c'est-à-dire que c'est un enfant qui a peur, hein, qui se cache, qui se sent pas à la hauteur, qui se sent dans l'obscurité. Lorsque je peux regarder ça en face, alors j'éclaire l'obscurité. Hein. Lorsque je peux ouvrir les bras à l'enfant, lui tendre la main patiemment et attendre qu'il se rapproche doucement, alors je peux transmuter cette obscurité en lumière. Et c'est le rôle que nous avons sur Terre, c'est ce que dit Yeshua. Nous avons ce rôle-là de transmuter l'obscurité en lumière. Donc c'est avec nous que ça commence. Hein. Je regarde les parts, entre guillemets, sombres de moi-même et je leur tends la main, c'est-à-dire je vais les regarder avec le plus d'amour, d'accueil, de compassion possible. Et ce simple regard, c'est la guérison de... Puisque, qu'est-ce qui se passe lorsque j'éclaire un coin sombre d'une pièce? Où est passée l'obscurité? Il n'y a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Parce que l'obscurité, elle n'existe. C'est pas une chose réelle, c'est un manque de lumière. La lumière, elle envahit tout l'espace. L'obscurité, c'est les endroits où que la lumière n'atteint pas. Mais si je vais augmenter la puissance de ma lumière, eh bien je vais voir qu'il n'y a plus d'endroit où sombre. C'est important. Enfin, moi, j'ai pris conscience de ça. Ça a été une grande révélation. Que l'obscurité, c'est une absence de lumière, alors que l'inverse n'est pas vrai. Quand il y a deux chambres séparées par une porte, l'une noire et l'autre blanche, si j'ouvre la porte, eh bien, la lumière va envahir la partie de la chambre sombre. C'est jamais l'obscurité qui va assombrir. Donc ça veut dire que l'obscurité, c'est des endroits, je le dis avec mes mots, où il n'y a pas assez d'amour. L'amour, c'est la lumière de qui je suis. Donc, comment éclairer ça? Eh bien, en aimant. En aimant quoi? En aimant les parties qui en ont besoin. Les parties de moi qui se sentent à part, exclues, jugées, séparées, en colère. Tout ça, c'est toutes ces émotions négatives se ramènent, comme j'ai dit tout à l'heure avec la culpabilité, à une seule. C'est des parties qui manquent d'amour.
L'amitié avec soi-même, l'amour de soi-même.
Voilà.
S'accepter comme on est. Voilà.
Mais comme rien n'est fixe et qu'on est traversé par plein de choses tout le temps, moi je trouve que c'est difficile quand même à maintenir, même d'éclairer, de mettre une lanterne pour ces ombres. Tous, autant qu'on est, on est traversé par plein de choses, quoi. Et j'ai l'impression qu'on n'en finit jamais, quoi, de mettre de la lumière dans l'ombre, quoi.
En observant, tu verras, il y a quelques schémas bien précis, récurrents en soi. Il faut les observer. Pas comment tu tombes dans l'ornière à 90% chaque fois. Et c'est pas grave. En l'observant, tu vas de moins en moins tomber dans l'ornière, de moins en moins tomber dans l'emprunt. Et ça va se dissoudre progressivement.
J'ai suivi tes conseils.
Non, mais c'est ce que a écrit un très bon livre de Tara Bennett-Goldman, L'alchimie des émotions, où elle décrit justement les principaux schémas qui existent en nous et comment on peut les désamorcer. Et c'est simplement par l'observation, par l'attention. L'attention à soi de ce qui se passe. Donc dans son livre, elle décrit les schémas de perfectionnisme, d'abandon, et on a tous quelques morceaux de certains, plus ou moins importants, ou des fois c'est un mélange de plusieurs, et effectivement, ça se désamorce, en les observant, l'attention. Tu as vécu une bonne partie de ta vie avec ces automatismes, ils ne vont pas disparaître en un jour.
Une autre chose qui me semble fondamentale dans ce que Yeshua dit un peu plus tard, il dit que nous jugeons nos émotions négatives. La société nous a appris à garder le positif et à juger le négatif, c'est-à-dire à ne pas l'exprimer. Alors que l'invitation de Yeshua, c'est d'embrasser le tout, la lumière et l'ombre, ensemble, en même temps. C'est une nouvelle énergie qui peut être créée sur Terre lorsque je réunis l'ombre et la lumière dans mes mains, dans mon cœur. C'est pas je prends la lumière et je jette l'ombre. Hein.
Ça, c'est du refoulement.
Mais voilà.
Quand tu observes, il n'y a pas de refoulement, tu accueilles.
Oui.
Et tu accueilles ce qui se passe. Des fois, ça tombe bizarrement là-dedans. Mais c'est vrai que c'est efficace.
Je suis en train de juger quelqu'un, j'accueille mon jugement. J'accueille la partie de moi qui souffre, qui a besoin de juger.
Je reconnais que j'ai jugé. Je sais que j'ai jugé, mais je ne me juge pas d'avoir jugé.
Je me sens petit ou sans valeur. J'accueille cette pensée négative de moi, avec amour. Mais qui donne de l'amour à cette pensée négative ? Ben, un être lumineux, forcément. Parce que c'est que donc c'est moi. Donc je reconnais que je suis ça, en faisant ça. Donc ça passe, comme dit Alain, par l'observation de mes comportements avec un regard doux. Quoi que je fasse, j'ai un regard doux sur moi-même. Je juge ? Ben oui, je juge. Si je commence à juger mes jugements, ça fait des jugements au carré, ça ne résout rien de juger le jugement. Donc oui, ben je juge, j'en suis là maintenant dans ma vie. Alors il en parle, des émotions négatives. Il dit, s'il vous plaît, regardez et voyez s'il y a une émotion ou une pensée négative qui émerge constamment et requiert votre attention. Donc Jayem disait, il y a beaucoup de peurs différentes, mais si vous regardez bien, si vous cherchez bien, vous verrez qu'il y a une peur racine. La peur racine, c'est le gros pavé, et il y a plein de petites peurs annexes qui sont issues de cette peur-là. Il n'y a pas besoin de s'occuper des peurs annexes, il y a besoin de s'occuper de la grosse racine. Quand je coupe la grosse racine, ben je coupe l'énergie qui est donnée à cette négativité-là. Et après, il dit, réalisez d'abord que cette émotion ou cette pensée sombre est là parce que vous êtes humain. Imaginez que cette zone sombre en vous est un enfant qui a été négligé. Vous allez peut-être le trouver essayant de se cacher dans un coin. Est-ce un garçon ou une fille? Regardez et voyez si vous pouvez le ou la trouver. Si vous pouvez prendre contact avec cet enfant, commencez par un contact visuel. Puis tendez-lui la main, doucement. Regardez cet enfant avec tendresse. Et voyez tous les efforts qu'il a dû faire pour survivre. Cet enfant est plein de joie de vivre et de passion. Mais il a dû endurer tant de choses que l'énergie de la joie et de la passion s'est déformée. L'énergie originelle de cet enfant s'est retrouvée piégée dans toutes sortes de masques et de mécanismes de survie, et à cause de cela, sa force vitale a commencé à se retourner contre elle. Mais à présent, l'enfant est autorisé à être ce qu'il est vraiment. S'il vous plaît, tendez-lui la main. Et laissez votre lumière rayonner. Par votre regard, souhaitez-lui la bienvenue. Laissez cet enfant venir à vous, à son rythme. Attendez patiemment. Prenez-le dans vos bras et serrez-le contre votre cœur. Ce que cet enfant a besoin de détendre et de retrouver et de recouvrer doit être vu et apaisé par vous. Observez comme vous rayonnez de douceur, d'amour et de compréhension lorsque vous êtes en contact avec cet enfant désemparé et blessé. Invitez votre part la plus sombre, l'accueillir et la ramener chez vous, fait jaillir la part de vous la plus lumineuse. Alors les dernières paroles de Yeshua sont superbes, moi j'ai beaucoup aimé. L'humanité n'a pas besoin de saints ni de gourous qui enseignent, juchés sur une estrade ou un piédestal, mais d'êtres de chair et de sang qui ont fait l'expérience par eux-mêmes de l'obscurité et de la lumière et qui sont capables d'étreindre les deux sans jugement. Vous devenez un ange humain dès l'instant où vous osez faire face à votre propre obscurité et l'embrasser. C'est ce qui va rendre votre lumière pure et puissante. La vie va vous apporter son soutien. Vous allez être attiré vers des opportunités et des lieux où vous pourrez révéler le meilleur de vous d'une manière naturelle et aisée. Vous n'avez pas besoin de travailler pour cela. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, puisque c'est votre énergie et votre vibration unique qui inspire les autres et leur apporte de la joie. C'est vous. Vous représentez l'amour de Dieu d'une façon unique, parce que vous êtes capable de faire face à votre obscurité et de l'étreindre avec bienveillance. Les gens ressentent votre ouverture, de la tendresse et de l'inspiration en votre présence, dans votre façon de les écouter. Et les trois dernières lignes du texte, tout ce que vous faites en exprimant et en manifestant le meilleur de vous sur terre invitera les autres à rayonner par eux-mêmes et à croire en leur propre souveraineté et en leur talent. Donner le meilleur de soi encourage les autres à faire de même. C'est ce que moi, je ressens comme étant l'extension de moi-même. C'est-à-dire, je ne peux pas aider quelqu'un, mais quand je rayonne qui je suis, alors ça peut lui donner envie de lui aussi être cette lumière, parce qu'il est cette lumière. Il se rappelle que lui aussi il est ça, et tout d'un coup, ah ouais, moi aussi j'ai envie d'être libre, ah ouais, moi aussi j'ai envie d'être joyeux, c'est ça qui me rend heureux. Moi, je lui sers de catalyseur pour se rappeler qu'il est déjà ça. Et c'est ce que je comprends.
Tu induis ton état dans l'eau.
Voilà.
Comme l'eau reçoit ton énergie, c'était paisible. L'autre ressent ton côté paisible,
oui.
Et ça pèse.
J'ai bien vu que j'avais la tentation avec mon ego de donner des conseils de bonheur à d'autres et que ça ne marche pas. Pourquoi ? Et maintenant je sais pourquoi. Parce que l'autre a besoin de faire l'expérience. Et à travers mon conseil, il n'y a pas d'expérience. L'autre a besoin d'expérimenter même l'obscurité, la négativité. Si je lui donne une recette, je le prive de son expérience. Et ça, c'est pas juste. Donc l'expérience fait partie de son choix d'incarnation. Donc même si c'est pas agréable pour moi, ben je vois que cette expérience-là, il a ou elle a à le faire.
La véritable transmission passe par le rayonnement. Je vois dans les cours de Tai Chi, tu ressens le rayonnement de quelqu'un d'avancé, ben, tu remontes.
Oui.
On sent cette élévation et on quelque chose d'autre en soi. Et on sent où il faut aller.
Mmh.
On ressent où il faut aller. Et on ressent d'une manière très énergique. Enfin, c'est en termes de vibration, d'énergie, d'état. Ça passe pas par le mot, ça passe par la présence. Par justement se relier. Et plus la personne est avancée, plus ce bond est important.
Et moi, ce que je ressens à travers ça, c'est que l'exemple d'une personne rayonnante, ça respecte complètement la liberté de l'autre. C'est ça qui est important. Parce que l'autre va avoir envie de faire par soi-même, par lui-même, ou par elle-même. On va pas lui dire « fais ça ». Il va dire « ah ouais, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que je veux. C'est comme ça que moi je serai heureux, donc je le fais ». Mais ça respecte complètement, c'est très dans l'amour, parce que tu fais si tu as envie de faire. Si cet exemple-là il t'aide, bravo, merci, magnifique. Mais s'il ne t'aide pas, moi je suis c'est pareil pour moi, c'est neutre. Hein. Je ne suis pas en train de dire « suis mon exemple absolument ». Et dans ce libre arbitre, il y a vraiment Dieu dit « ok » à tout. Hein. Donc quand je laisse l'autre à ce point libre de suivre ou pas mon exemple, eh bien je suis la manifestation, l'expression de ça, de l'autorisation complète, de quoi qu'il se passe.
C'est la différence entre un maître et un gourou. Un gourou, il dicte. Un maître, il est présent.
Besoin de faire des voyages différents chacun, quoi. Genre des embûches qu'on prend, des sens interdits qu'on prend, etc.
Oui, absolument. Au point où moi, dans ma vie, je suis reconnaissant d'avoir ressenti la haine dans mon passé et d'avoir agi avec la haine. Jamais j'aurais pu penser qu'un jour, je pourrais être reconnaissant de ça. Maintenant, je sais ce que c'est. Et ça m'aide. Ça m'aide à accueillir l'autre dans sa haine quand elle est là. À le comprendre. Oui, je te comprends. T'es jalouse, je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai été jaloux. Si j'avais pas été jaloux, j'aurais pas pu embrasser cette situation d'une manière amoureuse, d'une manière libre. J'aurais plongé je te comprends pas, hein, je sais pas ce que c'est, de quoi tu me parles là. Et maintenant je vois bien que c'est des expériences que mon âme a choisies pour mieux comprendre ce qui se passe en face de moi quand je vois ces comportements là. Et ça m'aide énormément, vraiment énormément. All you need is love. Hein, ça, c'est les Beatles qui disaient ça. C'est quand même assez fort hein, pour un texte qui date d'il y a plus de 20 ans. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour. Et love is all you need. Hein, c'est dit dans l'autre sens. L'amour est tout ce dont vous avez besoin. Je pensais que c'était un texte artistique, mais aujourd'hui, je le vois vraiment comme un texte aussi initiatique.
Mais l'amour de soi à soi aussi. Enfin, moi j'entends, j'ai envie d'entendre ça aussi, l'amour de soi-même, de toutes ces parties.
C'est universel.
Oui, mais avant d'aller chercher chez l'autre.
On ne peut pas aimer les autres si on n'est pas déjà en amitié avec soi-même. Enfin, ça me semble a priori très difficile.
C'est très vrai hein, ce que tu dis, Lydie, puisque quand je suis, si j'ai un puits. Qui est à sec chez moi, est-ce que je peux donner de l'eau à l'autre? Ben non, j'ai besoin de remplir ce puits puis de l'alimenter pour qu'il déborde. Et à ce moment-là, les autres s'abreuvent, les autres, j'ai même pas besoin de leur donner, ils viennent boire à ma source, c'est ce qui se passe. Mais en effet, je peux communiquer que ce que je ressens, je peux communiquer l'amour si je ressens l'amour pour moi, de moi à moi. Et quand il parle d'étreindre cet enfant intérieur, c'est ce qui fait grandir ma lumière, donc mon amour. C'est en allant observer l'ombre, regarder l'ombre, avec tendresse, douceur, patience, que...
Acceptation.
Oui, c'est ça. Cette obscurité-là, n'est pas négative. C'est déjà énorme si je dis ça. Elle a un sens, elle a un but dans ma vie. Elle me sert à réaliser des expériences qui vont m'être utiles par la suite. Donc je peux embrasser ça, je peux l'embrasser sans le juger.
Accueillir, dans accueillir, il y a accepter avec bienveillance.
Oui.
Il y a se relier, accueillir, c'est se relier, ouvrir les bras, se relier à l'autre, se relier à soi.
Ouais, ça me fait penser au dialogue avec l'ange où Gita Malas, à un moment, elle dit qu'elle a une voix comme ça qui est venue et c'était la vérité et c'était vraiment pas confortable. Mmh. Et ça me parle vraiment de ce côté-là. On dit ombre, mais en fait, c'est aussi un sacré miroir de soi.
Oui. Voilà, sur ces belles paroles, je vais clôturer formellement le dernier groupe de cette année 2010. Merci à tous les frères qui nous ont accompagnés de leur présence pendant toute cette année depuis mars, depuis le 1er mars où ces groupes ici ont commencé, et qui fait que nos groupes ont été bien plus grands qu'il n'y paraît. Je vous souhaite à tous un très beau passage dans le nouveau en 2011 et rendez-vous lundi prochain, le 3 janvier 2011.